Nous écoutons trois textes bibliques ce matin. Dans l'Évangile selon Luc, tout d'abord au chapitre 7, les versets 31 à 35. C'était un épisode suite à un envoi des disciples de Jean le Baptiste. Et c'est Jésus qui parle. À qui donc comparerai-je les gens de cette génération? À qui sont-ils semblables? Voici à quoi ils sont semblables. Des enfants assis sur la place publique et qui s'appellent les uns les autres pour dire « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes funèbres et vous n'avez pas pleuré. » Car Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de vin, et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs, des taxes, des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Dans l'Évangile selon Matthieu, maintenant au chapitre 12, à partir du verset 38. Quelques-uns des scribes et des pharisiens dirent à Jésus, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit, « Mauvaise et adultère génération qui recherche un signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe du prophète Jonas. En effet, tout comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront lors du jugement avec cette génération et ils la condamneront parce qu'ils ont changé radicalement la proclamation de Jonas. Et pourtant, il y a ici plus que Jonas. La reine du Sud se réveillera lors du jugement avec cette génération et elle la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et pourtant, il y a ici plus que Salomon. Et puis, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 36, le jour de la Pentecôte, c'est le discours, c'est la fin du discours de Pierre qui s'adresse à la foule et qui termine en disant « Que toute la maison d'Israël le sache donc bien, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur transpercé et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur dit « Changez radicalement, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don de l'Esprit-Saint, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Suite à la prière. Notre Dieu, toi qui nous donnes la paix et la joie par Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te louons. Tu es proche de nous. Donne-nous de vivre de cette parole. Je vous invite à chanter le cantique 240, les strophes 1, 2 et 3. Avant de méditer l'Écriture, nous prions. Oui, notre Dieu, nous te bénissons pour les dons de ton amour. Fais-nous la grâce de recevoir ta parole avec confiance, avec un vrai désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle nous demande. Que cette parole, Seigneur, agissant en nous, ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir suscité la justice et la compréhension, la paix et la joie de ton royaume. Sauvez-vous de cette génération perverse. Eh bien, frères et sœurs, cette exhortation pour le moins radicale de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte a joué et joue encore un rôle considérable dans l'histoire. Alors, opposer la communauté chrétienne à la société dont il faudrait se garder, oui, pourquoi pas, mais en quoi et de quoi ? Car il ne nous est pas détaillé ici ce que serait une génération perverse, on pourrait traduire par tordue ou dévoyée. Avec quoi donc faut-il rompre pour être Église ? C'est une question qui touche à notre vie quotidienne, à nos engagements, à des choix de société. Nous allons par exemple être sollicités pour des élections. Et il est vraisemblable que, pour une part au moins, nos choix sont influencés par nos lectures bibliques. Alors, il se trouve qu'il existe dans les évangiles trois propos de Jésus sur sa mauvaise génération. Il y a le texte de Luc avec la parabole des enfants qui ne veulent pas jouer. Il y a aussi dans l'évangile selon Matthieu cette génération mauvaise et adultère qui demande un signe et il ne lui en sera pas donné d'autre que celui de Jonas. Et puis il y a ces huit démons qui viennent en force envahir une maison purifiée, image de ce qu'il en ira pour cette génération mauvaise. La petite parabole des enfants interpelle les chrétiens et les églises. Ne sommes-nous pas enclins à être comme des enfants boudeurs qui refusent de jouer avec les autres enfants sur la place publique ? Ces enfants ne veulent participer à aucun jeu. Et c'est inquiétant parce qu'un enfant qui ne joue pas, c'est un enfant malade. Ces enfants ne veulent participer à rien, ni au jeu de la noce au son de la flûte, ni à celui de l'enterrement avec celui d'un service funèbre. Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des cantiques funèbres et vous ne vous êtes pas lamenté. Et c'est incroyable pour Jésus. C'est illogique. C'est absurde. Voici donc une première leçon contre la tentation de l'abstentionnisme. Attention à ne pas être une génération qui trouve des prétextes pour ne pas faire vraiment partie de la communauté humaine. C'est d'ailleurs ce que l'on reprochait à Jésus, sa liberté de comportement et ses fréquentations populaires. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et l'on dit que c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs de taxes et des pêcheurs. Il n'y avait pas chez lui, comme si souvent pour nous, d'un côté le sacré, de l'autre le profane. Et peut-être pourrait-on dire que chez lui, le sacré, c'est-à-dire là où Dieu est présent, se trouve justement dans la vie des hommes et des femmes de leur temps. Le sacré, cela se vit en bonne compagnie, dans la vie, les épreuves, les joies des hommes et des femmes de notre temps. Et en ce temps où une partie de la société pousse à ce que le sacré soit relégué dans la sphère du privé, de l'intime, nous nous souvenons qu'il ne faut pas opposer société terrestre et église, assemblée des saints. Le culte ne se limite pas à une cérémonie, c'est une attitude fondamentale. Le culte est autant dans la vie que la vie dans le culte. C'est pourquoi, par exemple, Jean Calvin avait simplifié la liturgie afin d'atténuer le contraste entre sacré et profane, de sorte que l'attitude cultuelle s'étende à toute la conduite, à toutes les démarches du chrétien. Donc ce premier élément, c'est la participation des chrétiens à la vie de la société. La mauvaise génération, nous dit Jésus, c'est celle qui ne veut pas jouer, excusez-moi l'expression, jouer le jeu. Deuxième élément, comment les chrétiens vont-ils participer à la vie de la cité? On pourrait penser que le propre des chrétiens, comme des autres cultes d'ailleurs, serait de demander l'intervention de Dieu pour la cité, pour y mettre du sien. C'est ce que demandaient à Jésus les gens de sa génération, sous la forme d'un signe, voire d'un miracle. La participation des chrétiens à la vie publique se concevrait bien sous cette forme, prier pour que des signes s'imposent à notre société, là particulièrement où la vie est difficile. Eh bien, une fois encore, la réponse de Jésus est étonnante, car il qualifie de génération méchante et adultère sa propre génération qui demande des signes. Et il leur répond qu'aucun autre signe que celui de Jonas ne leur sera donné. Et Jésus fait ainsi référence à l'action du prophète Jonas, qui avait pour mission d'aller dire à Ninive qu'elle allait être jugée si elle ne changeait pas de politique. Au 7e siècle avant notre ère, Ninive était la capitale de l'Assyrie, en un seul mot, pays réputé pour avoir écrasé les petits peuples voisins. Or, très curieusement, dans ce livre du prophète Jonas, le roi et les habitants de Ninive vont écouter ce petit prophète étranger et changer de comportement. Et de la même manière, dit Jésus, c'est la reine du sud, du midi, de Saba, le Yémen actuel, autrement dit, une reine africaine et donc à l'époque païenne. C'est la reine du sud qui a fait preuve de sagesse, car elle s'est déplacée et elle a écouté. Il n'y aura donc pas d'autre signe que celui de Jonas, Jonas qui, fuyant ses responsabilités, a failli en perdre la vie, mais fut rendu à la vie pour sa mission. Eh bien, comment participer ? non pas en demandant à Dieu des signes, et encore moins des miracles, mais en accueillant nous-mêmes l'Évangile, qui est bonne nouvelle pour ce monde qu'il a tant aimé. Celui qui écoute l'Évangile reçoit le seul signe qui vaille d'être donné, reçu, c'est celui de Jonas, ce qui veut dire celui de Jésus-Christ mort et ressuscité. Enfin, un troisième propos de Jésus sur sa génération, c'est la suite de ses propos avec la petite histoire de huit démons qui reviennent, un démon qui a été chassé d'une maison, qui a été purifié, et puis il revient après avoir erré, il revient dans cette maison qui a été vidée, rangée, bien ordonnée, et ils sont huit à revenir encore plus mauvais. Curieuse histoire, par démon on peut entendre tout ce qui nous déshumanise. En participant activement à la vie de la cité, les chrétiens doivent se garder de l'illusion du nettoyage et du rangement, de la propreté, voire de la pureté. En participant au débat et à la vie de la cité, ils ne sont pas à l'abri de céder à des simplifications abusives. Attention donc à ne pas être une génération qui range ses valeurs en assignant une place à chaque chose et à chacun. Attention de ne pas qualifier de Dieu ses propres démons intérieurs, particulièrement ceux qui désignent l'extérieur, l'étranger, comme le bouc émissaire de nos problèmes de vie communautaire. Et c'est pourquoi notre Église protestante unie de France appelle à attester de notre foi dans le dialogue et la confiance, et non pas en assénant des vérités toutes faites. Oui, dans nos débats ecclésiaux, comme ceux dits de société, faisons-le en refusant les positionnements a priori, qui n'écoutent plus la Bible, qui n'écoutent plus le témoignage intérieur du Saint-Esprit et qui n'écoutent plus l'autre. Mauvaise génération donc que celle qui demande des signes au lieu d'écouter, que celle qui boude les joies et les peines des hommes en ce monde, que celle qui place leur propre valeur au-dessus de tout. Et en méditant tout cela, j'ai pensé à une génération d'aujourd'hui qui se dit elle-même perdue. Il y a une quinzaine de jours, ont été publiées les premières analyses d'une très vaste enquête à laquelle 210 000 jeunes majeurs ont répondu en ligne, ce qui est tout à fait exceptionnel pour comprendre toute une partie de ce qu'on appelle des jeunes majeurs 18-25 ans. Interrogés sur la façon dont ils se perçoivent, ces jeunes qui ont répondu, ce ne sont pas tous les jeunes, mais tout de même 210 000 jeunes, ces jeunes que notre société a baptisés elle-même de génération Y ou Internet disent que ce sont les mots de génération sacrifiée ou génération perdue qui leur viennent le plus souvent à l'esprit. Génération perdue, sacrifiée. C'est eux-mêmes qui le disent, avec d'autres aussi qualificatifs, mais ce sont les deux qualificatifs qui reviennent le plus souvent. Et pourtant, ils aiment leur famille, résultat de l'enquête. Ils disent que le travail est important dans leur vie. Ils s'engagent dans un militantisme de terrain. Mais ils ont majoritairement le sentiment de ne pas avoir de place dans cette société, de subir et de ne pouvoir faire leur preuve de montrer qui ils sont. On ne s'étonnera pas de ce qu'ils ne croient plus à la politique, et ce n'est pas l'actualité de ces derniers jours qui va inverser cela, ni qu'il se méfie à 60% des institutions religieuses. Alors je me suis dit, cette génération qui se dit elle-même perdue, comment faire pour qu'elle se sente retrouvée? Eh bien, frères et sœurs, c'est à nous, avec nos faibles forces, mais avec ce que nous sommes, de témoigner de ce que nous avons reçu et de ce qu'ils peuvent recevoir. Le contraire de l'abstention, qui est défiance. Le contraire du signe qui fait preuve, le contraire du mot d'ordre qui s'impose, c'est la confiance donnée. Et c'est sans doute cela qui pourra faire dire « heureuse génération », celle qui participe à la vie, la cité, parce que c'est dans ce monde, en Jésus-Christ, que le Dieu vivant est venu habiter et côtoyer l'humanité. C'est dans ce monde que tu as des prochains à aimer. Amen.